Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Facebook dans la tourmente. Ces dernières semaines, les événements mettant en cause l'utilisation des réseaux sociaux du groupe par les plus jeunes se sont multipliés. On va citer la publication d'une enquête interne selon laquelle un adolescent sur cinq affirme qu'Instagram, le réseau social de partage de photos, a des conséquences négatives sur son image. On va également citer l'audition qui s'est déroulée hier devant la commission au commerce du Sénat américain et qui fait beaucoup de bruit. Audition d'une ancienne ingénieure informatique du groupe, Francis Hogan, qui a minutieusement, au cours de cette audition, détaillé les méthodes qui poussent les adolescents à utiliser Instagram à haute dose, au point de parfois sombrer dans l'addiction. Alors dans ce débat, on va s'intéresser à l'impact des réseaux sociaux sur les plus jeunes, quels sont les dangers, quels pourraient être les points positifs, comment encadrer leur utilisation. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour ce débat, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Lionel Kaplan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de l'agence Mediatrium, qui est spécialisée dans la communication digitale et les réseaux sociaux. Et nos deux autres invités qui sont ce soir en ligne avec nous, Michael Estora, bonsoir.
Bonsoir.
Psychologue et psychanalyste, spécialiste des addictions et du numérique. Je vais citer le dernier ouvrage dont vous êtes l'auteur, Réseaux asociaux, le côté obscur des algorithmes. Et Thomas Romer, également en ligne, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur de l'association Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Dans le contexte que je viens de décrire, je dois préciser que le groupe Facebook a annoncé la semaine dernière la suspension de son projet d'un Instagram Kids, autrement dit un Instagram qui serait réservé aux moins de 13 ans. Ce sera ma première question, je vous la pose à vous Lionel Kaplan. Que vous inspire cette décision ?
Alors effectivement, Facebook avait pour stratégie de créer des déclinaisons de ces différents réseaux sociaux ou messageries pour les enfants. Il y a déjà Messenger Kids, qui est l'équivalent donc de Messenger, la messagerie privée, mais pour les enfants, qui est déjà déployée depuis un moment maintenant. Et en début d'année, Facebook avait annoncé la création d'Instagram Kids. L'une des raisons, c'est pour justement éviter de mélanger, entre guillemets, les enfants avec les adultes et d'éviter certaines dérives. Là, la suspension qui a été annoncée, c'est sans doute lié au contexte actuel, effectivement, où Facebook est une fois de plus attaqué de toutes parts par des politiques ou par des associations, etc.
Ça peut être une bonne chose, selon vous, cet Instagram Kids ? Ça peut être une avancée ? Est-ce qu'il vaut mieux un Instagram spécialisé aux moins de 13 ans ou plutôt le risque que les moins de 13 ans aillent sur Instagram ?
Si vous voulez, les réseaux sociaux pour enfants, c'est pas nouveau. Il y a déjà plus de 10 ans, il y avait un réseau social qui était un peu sous forme de jeu vidéo qui s'appelait Habbo Hotel et qui était très utilisé par les pré-ados ou ados et qui a eu un succès éphémère parce que je crois qu'aujourd'hui il a disparu, mais qui a eu un succès auprès des enfants et des adolescents. Vous avez aussi les fameux blogs Skyrock qui ont eu pas mal de succès auprès des jeunes. Et vous avez les jeux vidéo en ligne. Donc c'est pas un phénomène nouveau. Maintenant, effectivement, c'est des réseaux qui doivent être encadrés, qui doivent avoir des règles strictes. Et c'est peut-être effectivement pas mal qu'on sépare les enfants des adultes, sachant qu'il peut y avoir des dérives, notamment en matière de pédophilie, comme on l'a vu quand on le voit dans l'actualité, dans un autre domaine certes. Mais il faut pas, bien sûr, faciliter ce genre d'échange.
Des réseaux sociaux pour enfants, ça vous inspire quoi, Michael Estora, vous qui êtes psychologue et psychanalyste?
Bah écoutez, moi j'y vois plutôt une stratégie un peu machiavélique de Facebook, puisque comme vous le savez, l'idée derrière, c'est à travers l'économie de l'attention, de fidéliser une nouvelle tranche de population et de pouvoir ainsi créer tout simplement des consommateurs majeurs. Moi, je dirais que ils ont souvent ce double discours, c'est-à-dire d'un côté une sorte de discours de bonne conscience, qui est celle de « il faut protéger les mineurs des prétendus cyberprédateurs ». Et quand vous regardez la réalité des chiffres, c'est quasiment, c'est pas du tout là où les pédophiles vont. On est dans une sorte souvent de complot un peu pédophilique, où on imagine qu'il y a des pédophiles partout. Alors que peut-être que vous le savez que malheureusement la réalité des chiffres montre que 80% des actes pédophiliques se situent au sein de la cellule familiale. Bon, c'est une petite aparté. Donc moi, j'y vois plutôt, tout simplement, puisque on se rend compte à quel point le modèle économique Facebook est un modèle dont la vocation, c'est de faire qu'Internet devienne Facebook ou Instagram. Moi, je suis vraiment plutôt inquiet de ce désir de faire d'enfants des futurs consommateurs pris dans une philosophie propre à Instagram, qui est une philosophie terriblement anxiogène, dépressiogène, qui renvoie sans arrêt à une sorte de bonheur très idéalisé, un bonheur numérique, qui est une nouvelle forme, entre guillemets, de dictature de la pensée.
Thomas Romer, vous partagez ce point de vue, voilà, dictature de la pensée à travers un Instagram. Alors c'est intéressant parce que vous travaillez évidemment avec les parents, et on l'a dit, il y a une étude qui est sortie récemment, une étude interne de Facebook, selon laquelle un adolescent sur cinq voit son image dégradée par Instagram.
Bah, écoutez, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Michael Stora, dans la mesure où nous, ce qu'on constate sur le terrain, en effet, en allant à la rencontre des parents ou des professionnels qui gèrent et encadrent les enfants, c'est pas mal de problématiques qui sont issues de comportements qui se déroulent sur les réseaux sociaux. Je pense que le hashtag anti-2010 d'il y a quelques jours était là encore pour le montrer. Et je pense qu'à un moment, il faut en effet arrêter de jouer l'hypocrisie. On ne peut y voir en effet que des fins mercantilistes de la part de ces plateformes qui ont besoin, surtout concernant le groupe Facebook, qui, le moins qu'on puisse dire, a beaucoup perdu de jeunes ces dernières années, Instagram étant lui-même un réseau social en train de vieillir énormément, a besoin de pouvoir s'assurer d'une rente sur le plus long terme en séduisant de nouveaux consommateurs. Donc, bien sûr, nous, on va même au-delà, puisque on demande depuis déjà quelques jours et depuis ce fameux hashtag que, tout simplement, concernant les enfants, eh bien, la loi soit appliquée. Je rappelle qu'au niveau européen, il y a le RGPD qui est censé interdire aux moins de 13 ans de se rendre sur les réseaux sociaux, et entre 13 et 15 uniquement avec l'autorisation parentale.
Et alors, le hashtag anti-2010, on le précise, c'est une campagne, on peut dire, de cyberharcèlement qui vise les adolescents nés en 2010 qui entrent en 6e.
Oui, bah, ce n'est pas des phénomènes nouveaux et qui ne sont pas nés sur les réseaux sociaux. La seule chose, c'est qu'évidemment, la caisse de résonance qu'offrent ces réseaux sociaux et parfois aussi une surmédiatisation de ces phénomènes engendre et donne de l'amplification à des choses qui, à la base, se déroulent depuis très longtemps dans les cours de récréation. Donc, la seule chose, c'est qu'à un moment, je trouve qu'on manque vraiment de cohérence et que la réponse apportée par le ministère de l'Éducation nationale consistant à créer gentiment un hashtag « Bienvenue au 2010 » ou d'appeler des lignes d'écoute n'est en aucun cas la solution, ne serait-ce que d'un point de vue cohérence et des messages que l'on est censé envoyer en tant qu'adulte responsable à ces jeunes. À un moment, il faut savoir mettre un cadre, même si on sait très bien qu'ils seront là pour l'enfreindre, mais au moins, mettre un cadre, c'est quand même souvent un pilier de l'éducation.
Lionel Kaplan, sur la démarche commerciale, comme l'ont dit finalement nos deux autres invités, Michael Estora et Thomas Romer, du groupe Facebook, qui se fait, disent-ils, au détriment des enfants. Vous partagez le même point de vue et qui rejoint ce qu'a dit la lanceuse d'alerte, cette ingénieure en informatique qui a travaillé pendant 2 ans donc, pour le groupe Facebook et qui a dit que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, privilégiait le profit au lieu de la sûreté.
Toute entreprise a une démarche commerciale. Donc, ce n'est pas nouveau. Et Facebook, comme toute autre entreprise, effectivement, a cette démarche. Donc, je ne peux que rejoindre ce côté-là.
Mais est-ce que ça se fait au détriment des enfants, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas assez de garde-fous ?
Alors, comme ça a été rappelé, normalement, on ne peut pas s'inscrire sur ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou d'autres, quand on a moins de 13 ans. Ensuite, c'est vrai que c'est facilement contournable, tout simplement parce qu'on déclare sa date de naissance à l'inscription, et que si il suffit tout simplement de mettre une date de naissance qui est suffisamment éloignée pour prétendre avoir plus de 13 ans. Il faut savoir aussi quelles barrières ou quels garde-fous on veut essayer de mettre. Est-ce qu'on va demander à tout à chacun de scanner sa carte d'identité avant de s'inscrire sur un réseau social, c'est impossible à mettre en place parce que ce sont des milliards d'utilisateurs, les réseaux sociaux. Ils peuvent pas contrôler, malheureusement, toute personne qui veut s'inscrire. Ou sinon, ça sera au détriment, en plus, de notre vie privée, à tous. Donc, le cadre doit être bien défini, effectivement, par la loi. Mais en même temps, avec toutes ces contraintes que je viens d'évoquer, qui nous empêchent d'aller au-delà. Donc, il y a une responsabilité qu'il faut pas écarter.
J'aimerais bien intervenir.
Alors, je vais juste terminer là-dessus.
Rapidement, parce que le cadre, ouais. on va en parler un peu plus tard, Lionel Caplan, mais allez-y.
Ouais, juste une responsabilité qu'il faut pas écarter. Il y a la responsabilité, bien sûr, des réseaux sociaux et des entreprises qui les dirigent. Mais il y a aussi la responsabilité, tout simplement, des parents qui doivent bien faire attention et éduquer tout simplement leurs enfants et s'éduquer eux-mêes par rapport aux réseaux sociaux.
Alors, j'ai entendu une voix, je ne sais pas si c'est Thomas Romer ou Michael Stora.
Non, c'est Michael Stora.
Michael Stora, bon, psychologue et psychanalyste, on vous écoute.
Oui. Bah, c'est-à-dire que, vous savez, pourquoi donc ça a été évoqué, pourquoi l'âge de 13 ans? C'est parce que avant 13 ans, ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs données à des fins publicitaires. Donc, c'est aussi à nouveau lié, en effet, à l'idée que c'est une entreprise. Mais ça reste un réseau social et d'ailleurs, Thomas Romer a beaucoup travaillé et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète, c'est que avec cette sorte de rivalité en termes du nombre de j'aime, donc avec une philosophie derrière de performance, avec des influenceurs qui donc vont se retrouver des influenceurs mineurs. Et on a pu déjà voir sur YouTube, puisque maintenant il y a une loi qui a été votée, je crois, qui fait que maintenant il est interdit que des mineurs, sans l'autorisation de leurs parents, puissent finalement avoir une chaîne où on a vu déjà des modèles économiques où les enfants vont être rémunérés comme un enfant acteur ou un enfant mannequin auprès de la Caisse des dépôts de consignation.
Mais Michael Stora, les interdictions, elles sont souvent contournées par les plus jeunes. Ils connaissent un peu plus, même que leurs parents, domaines-là des réseaux sociaux.
Oui, mais il faut savoir que vous avez sur Instagram des gens qui commencent à gagner leur vie en placement de produits, etc. Donc on va mettre des enfants dans ce type de situation. Et ça, je dirais d'un point de vue éthique, du point de vue de la place de l'enfant dans ce qu'il doit être, est quand même quelque chose de très inquiétant.
Je suis quand même assez étonné. Excusez-moi, je suis quand même assez étonné parce que, en tout cas en France, un mineur ne peut pas gagner de l'argent, tout simplement parce qu'il ne peut pas créer une structure, une société. Par contre, effectivement, on a déjà vu aux États-Unis, mais aussi, je pense aussi en France, des parents pousser leurs enfants à faire des chaînes YouTube, effectivement, pour faire ce qu'on appelle, par exemple, de l'unboxing. Un unboxing, c'est quoi? C'est je reçois un cadeau d'une marque et je le découvre devant tout le monde et donc je donne envie à mes spectateurs d'acheter ce cadeau. Ensuite, sur le plan éthique, on en pense qu'on veut, je vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est les parents qui sont derrière généralement, c'est-à-dire qui ont mis leurs enfants devant la caméra et qui ont créé cette chaîne YouTube et qui gagnent parfois des millions de dollars. Donc ça m'étonne effectivement que... on puisse laisser des enfants, des mineurs, en tout cas peut-être de moins de 16 ans, de moins de 13 ans, seuls faire une chaîne YouTube, je ne pense pas que ça soit possible aujourd'hui.
Alors, on va élargir le débat, mais on va rester sur cette question de la parentalité parce qu'elle est cruciale pour répondre à notre question du jour, à quel âge commencer les réseaux sociaux. Thomas Romer, vous qui êtes fondateur de l'association Open, observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, quel doit être le rôle des parents sur ce sujet-là?
Il est essentiel, bien sûr. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit, mais c'est pas uniquement les parents, c'est l'ensemble de la communauté éducative. C'est-à-dire que il est absolument essentiel dès le plus jeune âge de l'enfant d'arrêter de se focaliser autour de ces fichus écrans qui ne sont que des outils, mais de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de l'écran, et ce dès le plus jeune âge. C'est déjà les prémices d'une forme d'éducation aux médias. Que de s'habituer dès le plus jeune âge de l'enfant à discuter de ce qu'il voit, de ce qu'il perçoit, qu'il prenne un peu de recul. Et on sait déjà que les enfants qui ont pu bénéficier de ce type d'accompagnement sont des enfants qui, en général, s'exposent beaucoup moins sur les réseaux sociaux à l'adolescence et ont cette capacité de discernement, de prise de recul face aux informations qu'ils reçoivent en permanence. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, si aujourd'hui vous avez des jeunes qui sont rémunérés, et c'est pas... Les réseaux sociaux n'ont rien inventé, hein, depuis tout temps. Les enfants influenceurs existent depuis longtemps. Ça fait très longtemps que des marques comme Nike ou Adidas se rendent dans les établissements scolaires pour identifier des personnes qui pourraient, en tout cas, être facilitateurs dans la promotion de certains produits. Donc, il n'y a rien de nouveau. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, qui porte préjudice, c'est que souvent, on sait très bien que ce dialogue essentiel parent-enfant que j'évoquais tout à l'heure fait souvent défaut, et que du coup, les enfants qui regardent, par exemple, Neo et Swan, pour ne citer que sur YouTube, sont souvent laissés tout seuls, et il s'agit typiquement d'une publicité extrêmement perverse et ciblée, où certes des enfants étaient manipulés par leurs parents, mais par l'entremise d'autres enfants qui eux-mêmes sont ravis de pouvoir avoir tous ces jouets et aller dans tous ces parcs d'attractions. Donc il y a vraiment un enjeu essentiel, et nous c'est vraiment au cœur de notre projet associatif, que d'aller à la rencontre des parents, de l'ensemble de la communauté éducative, pour se mobiliser et s'informer sur tous ces enjeux. Parce que souvent, ce qui fait défaut, c'est que les parents que nous rencontrons nous disent « mais je ne me sens pas légitime pour intervenir parce que je ne maîtrise pas l'outil ». Mais l'enjeu n'est absolument pas dans la maîtrise technique des outils, il est juste dans la compréhension de ce qui se passe. Et pour ce faire, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est par exemple de faire une partie de Fortnite avec son enfant. C'est aussi de s'intéresser dès le plus jeune âge à ce qu'il fait avec ses outils.
Fortnite qui est un jeu vidéo, Michael Estora. Vous utilisez pour des jeux vidéo pour soigner vos patients. Vous pensez quoi de ce qui vient d'être dit? Je vais ajouter un chiffre, hein, près d'un tiers des enfants de 8-9 ans qui naviguent seuls sur Internet aujourd'hui.
Oui, alors il y a deux choses, parce que là vous parlez d'un côté de Fortnite, et en effet, la question qui a été soulevée par Thomas Romer, c'est-à-dire l'idée que finalement, quand vous rentrez dans un foyer lambda, tout le monde est seul face à son écran. Et je pense en effet que à travers, d'ailleurs, je repense à une étude qui avait été menée par e-Enfance il y a quelques années, 76% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants sur Internet. Et lorsqu'on ne sait pas, on développe en gros deux types de sentiments, la peur et la culpabilité. Et quand on est coupable, eh bien on attaque, entre guillemets, on devient le pire des juges et on pense que l'écran est à l'origine de tous les problèmes. Je reçois énormément d'enfants et d'adolescents pour des problématiques autour des écrans. Et très souvent, vous rendez compte assez vite qu'il y a une problématique dans la dynamique familiale. Et oui, je suis d'accord sur l'idée qu'il faudrait idéalement arrêter de diaboliser les écrans et en faire des alliés. Dans la dynamique familiale, moi j'ai en effet soigné avec des jeux vidéo. Je soigne maintenant des jeunes dans le cadre de l'école des héros avec la création de jeux vidéo. Donc je pense qu'il est possible d'utiliser les écrans dans la dynamique familiale. Quand mon fils me montre une vidéo YouTube, oui, je prends le temps de la regarder, on en parle après. Et étrangement, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que telle vidéo n'est plus une sorte d'enjeu, de mystère qui va donc engendrer de l'inquiétude. Donc oui, je pense qu'il faut faire des écrans des alliés, éducatifs, pédagogiques, pourquoi pas thérapeutiques, c'est ce que j'ai fait, mais aussi que finalement les parents puissent s'intéresser, parce que il s'avère que parfois, les parents regardent leur propre vidéo YouTube, leur enfant à côté une autre vidéo YouTube, mais finalement, rien n'est partagé. Et ça, c'est vrai que c'est dommage.
Lionel Caplan, comment utiliser à bon escient les réseaux sociaux? Là, c'est tout le cœur de notre débat. Quand on sait qu'il y a ces fameux algorithmes qui vont vous inciter, qui vont inciter aussi les plus jeunes qui vont sur Internet à aller vers des choses qui ne sont peut-être pas les plus positives, les plus porteuses.
Alors oui, moi je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. C'est il y a vraiment déjà une éducation à faire avant même que l'enfant aille devant l'écran. C'est-à-dire que il y a aussi des règles de société tout simplement à transmettre à ses enfants. On ne harcèle pas les gens, on ne fait pas, on n'insulte pas les gens. C'est des règles de société même qui plus tard deviennent aussi des règles quand on arrive à l'âge adulte légal, puisque l'insulte, je vous rappelle, est punie par la loi, l'insulte publique en tout cas. Donc déjà c'est une question vraiment d'éducation. Ensuite, une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, pour répondre à votre question, oui, on est un petit peu, c'est vrai, on est un petit peu conditionné par ces algorithmes. Malgré tout, nous, en tant qu'agence, on peut constater que tous les jours, Facebook met des limites, parce qu'à force de recevoir des pressions, en fait, légales ou politiques ou autres, les outils sont de moins en moins perfectionnés. Déjà, Apple a mis des bâtons dans les roues de Facebook pour forcer les gens à décider si oui ou non on veut être traqué, c'est-à-dire suivi par les algorithmes, même quand on est en dehors de Facebook. Donc les utilisateurs d'iPhone aujourd'hui choisissent, lorsqu'ils installent une nouvelle application ou lorsqu'ils vont sur Facebook, est-ce que oui ou non ils désirent être traqués. Les fameux cookies dont vous avez sans doute entendu parler.
Ça, c'est une avancée.
Ça, c'est une avancée. Et il y a une avancée beaucoup plus récente. Depuis fin août ou début septembre, on ne peut plus cibler publicitairement les moins de 18 ans si on adjoint à ça un centre d'intérêt. Par exemple, je ne peux pas dire « je cible les moins de 18 ans qui sont intéressés par les crèmes glacées ». Je peux uniquement dire que je cible les moins de 18 ans. Alors, ça a l'air comme ça d'être une avancée. J'ai quelques petits doutes parce que du coup, je pense que là, c'est uniquement l'algorithme et plus le ciblage publicitaire manuel que les agences font. Mais c'est uniquement l'algorithme de Facebook qui va décider si la publicité doit être vue par les mineurs. Voilà. Mais en tout cas, toutes ces modifications que Facebook fait, et il y en a de plus en plus, notamment ces derniers mois, sont liés à la RGPD, aux différentes lois, aux pressions, etc. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure, Facebook essaye de se racheter une bonne conduite, on va dire.
Donc ça avance. Michael Stora, qu'en pensez-vous? Vous qui êtes l'auteur de réseaux asociaux, le côté obscur des algorithmes. Parce qu'effectivement, c'est prouvé que les applications sont conçues, améliorées en permanence par les entreprises qui les développent pour capter l'attention des utilisateurs, pour les faire rester en ligne le plus longtemps possible. Et évidemment, les premières cibles, c'est les cerveaux des plus jeunes.
Oui et non, puisque alors je me permets une petite étude qui avait été menée par la revue Wired, qui est une revue geek américaine plutôt sérieuse, et qui avait quand même évoqué que ce sont les 35-49 ans les plus connectés.
Alors, les plus connectés, en tout cas les plus faciles à atteindre, parce que le cerveau est plus malléable, ça va être les plus jeunes.
Ceux qui passent...
C'est le danger.
Oui, alors, évidemment, mais la question c'est que c'est toujours très compliqué, parce que quand vous dites les écrans, il faudrait peut-être aller un peu plus loin dans de quel écran parle-t-on. Est-ce qu'il s'agit de YouTube? Est-ce qu'il s'agit de Fortnite? Et vous voyez, c'est...
On parle ce soir des réseaux sociaux. On peut élargir, mais on parle ce soir des réseaux sociaux.
C'est vrai. Mais entre TikTok et Instagram, c'est même si on retrouve des choses similaires, par exemple, moi qui suis quand même spécialisé dans les adolescents, l'adolescence reste une période d'une grande fragilité où la question de la souffrance, par exemple, est quand même aussi très présente. Moi, j'ai été modérateur, j'ai dirigé la cellule psychologique de Skyrock, de Skyblock pendant 6 ans. Je peux vous dire que c'était un espace où les jeunes pouvaient exprimer leur souffrance de manière souvent très créative. Sur Instagram, la souffrance n'a pas de raison d'exister. Alors que sur TikTok, à travers une chanteuse qui s'appelle Billie Eilish, peut-être que vous connaissez, qui donc a pu exprimer de la souffrance, et ça a été énormément donc fait de manière parfois créative ou pas, à travers des sortes de playback, le fait qu'il pouvait exprimer ces choses-là.
Le problème, je me permets de vous couper, parce que le temps tourne, mais Instagram, oui. On en parle, parce que c'est quand même un réseau social sur lequel les adolescents sont de manière massive. Il y a une addiction clairement à Instagram. Les jeunes personnes sont conscientes qu'Instagram nuit à leur santé mentale, mais se sentent obligées d'y passer du temps de peur de rater quelque chose, une tendance culturelle ou sociale. Ça, c'est ce qui ressort de la dernière enquête.
C'est ce qu'on appelle le FOMO, en fait.
Le FOMO, oui, le Fear of Missing Out, qui existe aussi chez d'autres personnalités. Ce qui est vrai, c'est que il est évident que la construction identitaire des adolescents se fait aussi sur les réseaux sociaux. Quand je poste une photo, c'est une manière de voir est-ce que quand je pose de cette manière-là, est-ce que je vous plais. Donc c'est ce que j'ai pu travailler, entre autres à l'époque avec Skyblog. Maintenant, oui, le modèle économique des réseaux sociaux Facebook et Instagram a complètement évolué, puisque maintenant, c'est le modèle de l'économie de l'attention. Donc, on va tout faire pour qu'en effet, l'adolescent, mais aussi l'adulte, étrangement, scroll, donc finalement, fasse le fil de son actualité Instagram de manière complètement irrationnelle. Et étrangement, vous avez évoqué au tout début de l'émission le bug qu'il y a eu, qui a provoqué chez beaucoup une prise de conscience que pendant une journée, ne plus avoir son fil, c'était comme étrangement une manière de se retrouver à ne plus être en lien avec un espace familier, comme une sorte de toutou virtuel. Et c'est vrai que je m'étais amusé à dire dans le cadre d'une grosse conférence sur le RGPD, qui était que 90% des Français avaient été soucieux de leurs données, mais 90% des Français ne supportaient pas l'idée de quitter Facebook. C'était de penser que Facebook, c'est un peu comme ta mère, tu as envie de la quitter, mais tu n'y arrives toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a un rapport complètement irrationnel
Ouais, c'est cette addiction évidemment qu'on souligne. Je voudrais parce que alors c'est important et je rappelle qu'Instagram pour les auditeurs qui nous rejoignent c'est un réseau social de publication des photos et c'est pour ça qu'on parle évidemment des souffrances, de la comparaison. Il y a beaucoup de troubles de l'alimentation qui émergent à partir de là. J'aimerais bien qu'on évoque la régulation. Comment encadrer? Vous avez soulevé ce point-là, Lionel Caplan, tout à l'heure. Thomas Romer, ça fait quelque temps qu'on vous a pas entendu. Vous qui êtes président fondateur de l'association Open, observateur de la parentalité. Et de l'éducation numérique. Vous avez des pistes pour encadrer justement ces réseaux sociaux?
Tout simplement, appliquons la loi. On a la chance en Europe d'avoir ce RGPD qui, il y a 3 ans, tout le monde fanfaronnait à la tête des plateformes. Et depuis 3 ans, on n'en entend plus parler et personne n'applique rien. Il y a 3 points essentiels dans le RGPD pour protéger les enfants et absolument rien n'a été mis en œuvre depuis 3 ans, depuis aucune plateforme. Donc, asseyons-nous autour d'une table, État, institution, association de protection de l'enfance, experts, plateformes, et réfléchissons. Je ne souscris pas tout à fait à ce qu'a dit M. Caplan tout à l'heure quand il dit « oui, mais ça sera applicable qu'à la condition qu'on collecte des données ». Bien sûr que c'est hors de question que ça se passe de la sorte. La seule chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas me faire croire qu'en 2021, on n'est pas capable de trouver un système d'identification unique sans collecte de données. On a tous un numéro de sécurité sociale unique qui nous suit toute notre vie. Je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique, il est tout à fait envisageable de créer un dispositif qui permettra d'identifier et de s'assurer de l'âge des personnes. C'était également le cas le débat sur la pornographie, hein. On en revient toujours au même en fait. Il y a des contenus et des endroits où des enfants ne doivent pas être, ou en tout cas, même si on sait qu'ils chercheront à contourner la règle, au moins mettre un cadre et faire en sorte que les choses soient clairement dites et faire en sorte aussi qu'elles soient respectées. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de mettre en place un dispositif qui permettra d'éviter que ces enfants aillent trop jeunes dans ces espaces numériques. Et ça sera le meilleur des garde-fous aussi, le meilleur signal envoyé aux parents.
Voilà, comment protéger sans toucher aux libertés publiques, Lionel Caplan. Je voudrais terminer avec vous. Est-ce que c'est possible une régulation au niveau mondial? Parce que j'évoquais au début de cette émission l'audition de la lanceuse d'alerte, Frances Haugen, qui appelle à la mise en place d'un régulateur. Il y a la sénatrice Kirsten Gillibrand qui aujourd'hui a tweeté « Il est temps de créer une agence de protection des données et de forcer les géants de la tech à rendre des comptes. Le Congrès américain va agir », a tonné un autre sénateur. Qu'en pensez-vous?
Alors, pour répondre à votre toute première question, est-ce que c'est possible au niveau mondial? C'est extrêmement difficile puisque les lois sont très différentes d'un pays à l'autre. Et puis parce que ces réseaux sociaux, justement, sont mondiaux et souvent d'origine américaine. Et
est-ce que ça doit venir des États-Unis?
Non, pas forcément, parce que par exemple TikTok c'est d'origine chinoise, donc pourquoi seulement les États-Unis? L'Europe a son mot à dire, donc effectivement s'il y a une réglementation entre guillemets au niveau mondial qui doit se faire, et notamment par rapport aux enfants, c'est peut-être effectivement les différents pays ou les différents continents qui doivent se réunir et essayer de mettre des règles communes, parce que sinon on s'en sortira jamais, étant donné que, rappelez-vous, pourquoi on est tous allés sur Facebook au départ, c'était pour pouvoir avoir des nouvelles de son oncle d'Amérique ou de son cousin en Chine, et donc de pas être limité par la communication.
Et pour la France, pour terminer, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Thomas Romer, les lois existent, appliquons-les?
Ah bah oui, moi, de toute façon, à partir du moment où il y a des lois, je suis pour qu'on les applique, je ne peux pas être contre ça.
Eh bien, merci Lionel Caplan, fondateur de l'agence Mediatrium, spécialisée dans la communication digitale et les réseaux sociaux. Merci Michael Stora, psychologue et psychanalyste, spécialiste des addictions et du numérique, auteur de Réseaux asociaux, le côté obscur des algorithmes. Et puis merci à Thomas Romer également, qui était en ligne ce soir, fondateur de l'association Open. Merci à vous trois, à l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. C'est la fin de ce débat du jour. Florence Ponce à la préparation, comme chaque soir. Mathieu Douxamy ce soir à la réalisation. Demain, nous évoquerons les relations entre la France et l'Algérie qui, ces derniers temps, ont connu des tensions. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? C'est la question que nous poserons. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute des RFI dans 30 secondes. C'est RFI soir.
C'est pas du vent.